franceinter.fr.
C'est un moment important qu'est en train de vivre le monde de l'intelligence artificielle, la première victoire d'un ordinateur sur un professionnel, un humain, du jeu de Go, un moment important qui en rappelle un autre qui, lui, est depuis rentré dans l'histoire, c'était en 96.
Le geste est pathétique, l'heure est historique. Le champion du monde d'échecs vient d'être battu en combat très singulier par une machine. Il était certain pourtant d'en venir à bout. Cependant, l'intelligence a dû laisser place à la formidable puissance de calcul, stocké dans les laboratoires d'IBM et implanté dans les entrailles d'un ordinateur d'une tonne et demie, doté d'une logistique et d'un centre de recherche aux moyens quasi illimités.
Et c'était donc en 96, l'ordinateur Deep Blue d'IBM battait le champion du monde d'échecs Garry Kasparov. Et c'est maintenant au tour de DeepMind de faire parler de lui. Le programme simulateur de joueurs de Go, mis donc au point par les ingénieurs de Google, vient d'annoncer donc sa victoire 5-0 contre le champion d'Europe en titre, Fan Hui. C'est une performance annoncée mardi et qui secoue le monde de l'intelligence artificielle. Bonjour Olivier Tetteau.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'INRIA, vous-même concepteur de joueurs de Go artificiel. Est-ce que vous avez été surpris par cette victoire de DeepMind contre un joueur professionnel ?
Oui, parce qu'on ne l'attendait pas si vite. C'est-à-dire que les méthodes étaient effectivement les méthodes en recherche actuelle et ils ont pris tout le monde de vitesse, je dirais. On n'attendait pas une telle performance si vite.
C'est-à-dire, a priori, l'échéance, c'était quoi ?
Alors, c'est-à-dire que dans les années 2000, vers 2007, on a eu venu des laboratoires publics, les premiers programmes qui marchaient à peu près bien. On avait gagné contre des professionnels, mais sur des petits plateaux ou en prenant des coups d'avance pour handicaper l'humain. Et depuis, il y avait eu un petit peu de progrès, mais pas si rapide que ça. Et on était encore assez loin de l'humain et on attendait plutôt encore 10 ans ou 15 ans avant d'y arriver. Et là, hop, la surprise, Google qui l'a déjà fait.
Il aura quand même fallu attendre 20 ans entre la victoire de Deep Blue sur Kasparov et celle-ci. Pourquoi 20 ans ? Ça paraît énorme quand on réfléchit en termes d'intelligence artificielle.
Avec donc d'un côté les jeux d'échecs et là le jeu de Go. Hein.
En fait, le jeu de Go, c'est beaucoup plus compliqué que les échecs.
Alors qu'est-ce que c'est le jeu de Go ? Rappelez-nous.
Alors le jeu de Go, c'est un jeu qui se joue à deux, qui est très joué en Asie, qui est encore assez marginal en Europe. Disons, les joueurs professionnels commencent à s'entraîner très très jeunes et arrivent à leur meilleur niveau vers 30-35 ans. Et les machines, jusqu'à il y a peu, étaient très très faibles comparées aux joueurs humains.
C'est un jeu qui demande beaucoup d'expérience, c'est ça la différence avec les échecs ?
Alors, informatiquement, il y a une différence qui est claire et nette, c'est que contrairement aux échecs, il n'y a pas de façon simple d'apprécier une situation de jeu. C'est-à-dire qu'aux échecs, on compte qui a le plus de pions, qui a le plus de pièces, et on a déjà une idée de qui domine la situation. Après, on met un peu de puissance de calcul dessus, et maintenant, avec un téléphone portable, vous pouvez jouer mieux que les meilleurs humains aux échecs. Et on n'a pas du tout d'équivalent de ça, on n'a pas de façon simple d'évaluer une position au Go. Les joueurs de Go, ils vous disent, là, la position des pierres, c'est quelque chose de très joli, il y en a une espèce d'esthétique qui n'est pas facile du tout à coder informatiquement. Donc on n'a pas du tout le même genre de solution. Les algorithmes pour jouer au Go sont très très différents.
Mais justement, quelles ont été les armes de DeepMind pour vaincre ce joueur professionnel ?
Ils ont utilisé les deux grosses catégories d'outils actuels pour le jeu de Go. Le premier outil, c'est ce qu'on appelle le Monte Carlo. Donc ça a commencé en 2006. C'est ce que nous, à l'INRIA, on avait notamment développé avec aussi nos collègues à Lille. Hein. C'est quelque chose qui est très français, en fait, comme technologie à la base. On avait obtenu comme ça des bonnes performances contre des joueurs professionnels, mais toujours avec un handicap contre l'humain. Et puis la deuxième grande catégorie de méthodes, c'est les réseaux profonds. Donc ça existe depuis les travaux notamment de Yann Lequin ou des gens qui sont maintenant à Facebook d'ailleurs. Et aussi l'université d'Édimbourg qui avait fait des choses très intéressantes. Donc c'est quelque chose qui est réseau de neurones, donc c'est qui reproduit un petit peu des choses biologiques, qui était moins bon que le Monte Carlo jusqu'à récemment, mais qui avait des aspects intéressants parce que c'était capable de reconnaître des belles formes de position de pierre. Et donc, ce qu'a réussi Google pour la première fois, c'est pas tellement les deux briques, ces deux briques-là, Monte Carlo et Réseau Profond. Enfin, ils les ont très bien faites, hein, ces deux briques. Notamment sur l'aspect Réseau Profond, il y a quelques innovations intéressantes. Mais ils ont surtout bien réussi la combinaison de ces deux outils. Un aspect Monte Carlo, très puissance de calcul, et un aspect Réseau Profond qui est plus proche du biologique, disons.
Et est-ce que donc, du coup, ces réseaux ont permis de doter l'ordinateur d'une sorte d'intuition, on pourrait dire, qui s'évade un petit peu? Qui s'émancipe du calcul pur mathématique ?
Oui, si on veut, oui. C'est une reconnaissance de formes, disons, de quelles formes sont sympathiques, quelles formes ne sont pas sympathiques. Et le réseau profond arrive très bien à voir l'aspect très stratégique aussi, quels sont les endroits intéressants sur le plateau. C'est aussi une différence avec les échecs. Un plateau d'échecs, c'est assez petit. Un plateau de Go, c'est très grand et il y a une très forte dimension stratégique. Choisir à quel endroit il faut attaquer, quel endroit il faut défendre. Et ça, c'est une nouveauté. Le programme de Google a très bien joué ça avec son réseau de neurones.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus ce qu'est un réseau de neurones ?
Un réseau de neurones biologiques, c'est plein de petites unités de calcul, les neurones connectés par des synapses et des axones. Mmh. Et les réseaux biologiques sont assez proches dans la structure. Par contre, la façon dont ils apprennent est un petit peu différente. Mais ces dernières années, il y a eu beaucoup de changements justement dans la façon dont on fait apprendre les réseaux artificiels, avec notamment des choses comme ce qu'on appelle le non-supervisé, c'est assez technique, mais qui ressemble beaucoup à ce qui se fait dans le biologique, donc beaucoup plus, disons. Donc voilà, c'est beaucoup de petites unités reliées entre elles pour apprendre des choses par expérience.
Il reste quand même une personne à battre pour DeepMind, c'est le champion du monde, Lee Sedol. La rencontre est prévue pour bientôt ?
Oui, c'est pour mars.
Et vous risqueriez à pronostiquer un gagnant ?
Non, je m'y risquerai pas. J'ai vu qu'il y a des gens qui se sont risqués à cet exercice et qui disent qu'il leur semble, au vu des matchs, que l'humain va réussir à gagner. Ça me semble un peu périlleux, parce que la machine a gagné 5-0. C'est clair que Lee Sedol est un très 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 grand joueur de Go et il aurait pu faire lui aussi une victoire 5-0 contre Fanui. Mais savoir si Lee Sedol va être meilleur que Google DeepMind, je sais pas.
Bon, en tout cas, ce qui s'est passé est déjà entré dans l'histoire, on peut le dire, puisque la machine donc a battu ce joueur de Go, DeepMind, donc victorieux de Fanui, 5-0, champion d'Europe en titre, pourtant Fanui. Merci beaucoup Olivier Tetto pour vos explications. Et à demain, Axel.
À demain, Mathieu.
Merci, au revoir.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, des astronomes anglais annoncent la découverte du plus grand système planétaire jamais observé. Il abrite une planète solitaire qui navigue si loin de son étoile qu'elle met près d'un million d'années pour compléter son orbite. Cette planète se trouve à plus d'un million de millions de kilomètres de son étoile, soit 7000 fois la distance entre la Terre et le Soleil, un million de kilomètres. Les astronomes cherchent maintenant à comprendre comment un tel système planétaire s'est formé et surtout comment il a survécu. Une cape d'invisibilité pour soigner le diabète de type 1. Des chercheurs américains ont réussi à insérer des cellules productrices d'insuline dans le corps de rongeurs sans qu'elles soient attaquées et détruites par le système immunitaire. La clé de ces travaux tient dans le camouflage innovant à base d'algues brunes. Qu'ont imaginé les chercheurs pour ces cellules, une stratégie intéressante qui pourrait à terme offrir aux personnes souffrant de diabète un nouveau pancréas protégé du système immunitaire et permettant de contrôler la glycémie sans prendre de médicaments quotidiennement. Et puis une drôle de girafe pour terminer, elle s'appelle Homo et sa photo fait le tour du monde depuis hier. Sa robe quasiment blanche est très originale. Elle lui vient d'une anomalie génétique appelée leucistisme, à la différence de l'albinisme où seulement les pigments bruns sont absents. Le leucistisme concerne tous les pigments excepté ceux de la rétine et de l'iris. Homo, en bonne santé, vit dans un parc naturel de Tanzanie et sa photo est à retrouver bien sûr sur la page Facebook de la Tête au Carré.